Je vous remercie. J'ai conscience d'être devant un exercice doublement ou même triplement difficile. D'abord parce que c'est la fin de la journée, tout le monde a entendu déjà beaucoup de discours. Deuxièmement parce que, comme vient de le dire Marie-France Renard, j'ai la mission de vous parler d'un livre qui est le produit d'un colloque antérieur d'Italique, mais c'est un livre qui est à la fois présent et absent, parce que il aurait dû être sur la table, mais il n'y est pas, donc nous n'en avons que quelques exemplaires à montrer, et donc il s'agit de parler d'un livre que personne ne peut vraiment consulter. Il s'appelle, il vient de sortir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas réussi à le faire venir à temps. Il s'appelle « Francophonie d'Europe, du Maghreb et du Machrek ». C'est une formule qui décrit évidemment la Méditerranée sans la nommer. Et comme le rappellent les discours qui inaugurent ce livre, il présente les actes d'un colloque qui a eu lieu en novembre 2011 à Bruxelles, mais qui avait été pensé et conçu dès octobre 2010, c'est-à-dire avant ce qu'on a appelé les printemps arabes, alors que c'est un livre qui concerne cette question et qui en recueille les premiers fruits, si on peut dire, en tout cas les premières réflexions. Même si l'on n'a pas les textes tels qu'ils ont été dits, mais des textes qui ont été revus et complétés après coup, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles ce livre ne paraît que 2 ans après le colloque, il peut paraître aujourd'hui, et c'est le risque de ce genre de publication qui est tellement emprise sur l'actualité que d'une certaine manière elle la devance, il court le risque donc d'être dépassé par les événements. Et en effet, cette formule même de printemps arabe n'a plus du tout la vigueur, disons, qu'elle avait à ce moment-là. Après avoir ainsi reconnu que c'est donc un de ses mérites, je proposerai néanmoins de vous présenter ce livre indépendamment de cette actualité du Maghreb et du Machrek pour m'attacher à ce qu'il apporte à la connaissance. Plus que sur l'actualité socio-politique des pays du Maghreb et du Machrek, plus que sur la notion de pluriel qui est amplement développée dans ce livre à propos de la conception même de la francophonie, je souhaiterais m'attarder sur 2 aspects qui me semblent intéressants et importants dans ce livre. Le panorama qu'il découvre, qui est extrêmement large, et le 2e aspect, la notion d'entre-deux, qui me semble être au centre de ce livre. Alors le panorama, il est original par la variété des points de vue et des thèmes qu'il permet d'examiner. Il pose un vaste regard sur cette rive et sur l'autre rive de la Méditerranée, et on peut même dire les 2 rives et même 3, puisque le titre s'attache bien à 3 composantes d'Europe, du Maghreb et du Machrek, et qu'il y a aussi des études sur le Liban et proposées par des Libanais. Mais c'est très important parce que on ne parle pas seulement de 2, on parle de plus de 2. Ce qui est très important, à mon avis, parce que quand on parle de 2, on tombe toujours dans l'affrontement. Alors les thématiques, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus visible. Il y a dans ce livre une analyse, une réflexion à chaud sur la situation politique de ces pays. Il y a une réflexion, des témoignages sur l'invention des écritures francophones. Un témoignage et une réflexion sur l'enseignement des littératures francophones, c'est-à-dire le problème de la transmission. Et ce problème, il est au centre du livre aussi. Parce que, indépendamment des résultats de l'enquête, par exemple, qui est menée sur les départements de français au Liban, ce qui est d'ailleurs assez rare qu'on se donne la peine de faire une enquête sur l'état des départements de français, de littérature et d'enseignement de la langue française à l'étranger, c'est un des rares exemples qui est d'ailleurs une étude extrêmement sérieuse de ce point de vue. Mais on le trouve aussi dans la réflexion douloureuse de Samir Marzouki, qui est le témoignage de quelqu'un qui vit de l'intérieur la révolution en Tunisie, parce qu'il s'interroge sur le problème de la transmission, ou plutôt ce qu'il constate comme étant l'absence de transmission de la modernisation en gros de la Tunisie opérée par Bourguiba, ce qui lui fait penser qu'en fait on a vécu sur un mythe de cette modernisation ou un rêve qui ne correspondait pas à une réelle transmission. Et puis, on trouve aussi une réflexion plutôt philosophique, disons, comme celle de Nabil Fares, qui permet une sorte de déconstruction de la francophonie et de la notion d'étranger. Alors, ce qui est très visible aussi, ce sont les lieux de parole, si je puis dire, parce que on entend des voix qui viennent aussi bien de personnes qui parlent de leur pays et depuis leur pays où ils vivent, comme on s'y attendait de personnes du Sud qui vivent dans le Nord et parlent du Sud, de personnes du Nord qui vivent dans le Sud et qui parlent du Sud, des diplomates par exemple, des personnes du Nord qui vivent dans le Sud. Mais on n'a pas seulement les personnes qui parlent, on a aussi dans les sujets une variété des auteurs. Et même, on y trouve une comparaison, ce qui n'est pas sans intérêt, faite par un professeur de l'université de Berlin, entre la littérature maghrébine et la littérature québécoise. Et se crée ainsi une sorte de jeu de miroir infini, car les images qui sont renvoyées, avec les défauts inhérents à chacune d'elles, en particulier les partis pris, s'affrontent, se répondent et finalement se complètent. Mais c'est aussi la variété des points de vue qui est intéressante, parce qu'on y trouve le témoignage d'écrivains qui parlent du point de vue de la langue, c'est-à-dire du style, de la création, le point de vue d'enseignants qui parlent des structures d'enseignement, de la pédagogie, des grilles de programme. On y trouve un éditeur qui se préoccupe de la diffusion et de la commercialisation des œuvres littéraires. On y trouve les diplomates que j'ai déjà cités, des psychologues, des psychanalystes comme Nabil Fares. Ainsi, ce que nous apporte ce livre, c'est, et je cite l'un des auteurs, « une éthique des langues et des cultures signifiée par ces francophonies multipliées », c'est-à-dire une vision de la francophonie. Et voilà, je cite aussi rapidement ce qu'elle dit, « les accents divers des mondes francophones invitent conjointement à dessiner une nouvelle région du monde », vous savez que c'est une expression d'Édouard Glissant, tout comme ils aident à discerner, à distinguer, non plus une voix tonitruante ni imposante, mais comme une voix off, un contrepoint bénéfique, une saine différence avec d'autres langues, prouvant que nulle pensée, et encore moins la pensée des langues, ne peut s'accommoder d'un plat unisson. » Alors, ce qui est important, plus que la Méditerranée, mais c'est l'entre-deux. L'entre-deux, c'est d'abord l'entre-deux langues, même parfois entre trois. Mais comme le dit l'un des écrivains, j'écris de droite à gauche et de gauche à droite. D'où est venu ce jeu avec deux feux, l'arabe et le français, demande-t-il. Mais s'il parle de jeu, il est, comme on dit en français, pris entre deux feux. C'est-à-dire que l'entre-deux n'est pas une situation de confort, au contraire, puisque c'est quand même toujours, ça revient, comme on dit également en français, à être assis entre deux chaises. Plus que l'entre-deux des langues, c'est aussi l'entre-deux des civilisations, entre deux cultures que portent ces langues. Et le témoignage des écrivains est extrêmement clair là-dessus. Mais c'est aussi, revenons une seconde à l'actualité visée par le colloque, c'est aussi l'entre-deux politique qui est vécu par les pays du Maghreb et du Machrek, qui est aussi un entre-deux social et civilisationnel dont Samir Marzouki décrit toute l'incertitude qui est plus que de l'inconfort, une véritable angoisse, une véritable souffrance. Et la force de ce livre, des témoignages et des réflexions qu'il présente, est de ne pas montrer que cet entre-deux comme un malheur ou comme une fatalité, mais comme une richesse, comme une occasion, celle d'une vraie crise qui permettra de passer à autre chose. Et la Méditerranée, dont on a parlé sans la nommer, mais elle y est, et d'ailleurs la Méditerranée elle-même placée, c'est le sens même de son nom, de son étymologie, au milieu de la terre ou au milieu des terres. La Méditerranée elle-même n'est-elle pas un entre-deux? Et à ce sujet, ce que dit Nabil Fares, c'est ce que n'aime pas la Méditerranée, c'est d'être divisé, scotomisé, fragmenté, parce que l'entre-deux, par définition, ne se morcelle pas. Et je vais finir sur ce qui est pour moi le meilleur exemple de cet entre-deux, c'est l'étude de la figure méditerranéenne par excellence, si j'ose dire, de Médée. Médée venu de Colchide, c'est-à-dire d'un au-delà de la Méditerranée, un au-delà de la troisième rive de la Méditerranée. Et la figure de Médée est l'occasion de poser la question de l'étranger et de se demander qui est l'étranger. Parce que le mot d'étranger, c'est le mot qui, par son sens même, divise le monde en deux. Et donc, Médée tue et meurt d'être entre deux cultures, mais surtout de ne pouvoir faire taire cette voix tonitruante qui est celle de Jason, la voix tonitruante du pouvoir qu'il représente, même si ces cris, parce que finalement, même si ce sont les imprécations et les vocalises proférées par Maria Callas, que d'ailleurs nous avons eu le privilège d'entendre au moment du colloque, sont quand même une petite voix, une faible voix, de faibles cris, et c'est une voix off, comme le dit Samia Kassab là, c'est-à-dire une voix qui est par nature condamnée à une certaine marginalité par rapport au vrai protagoniste de l'histoire. C'est donc son risque, mais en même temps sa richesse. On comprend pourquoi l'entre-deux n'est pas une situation de confort, mais au contraire de drame. Ce volume est là pour rappeler l'urgence dans ce combat, comme le dit Nabil Fares, de l'écriture contre l'absence et les ténèbres, mais qui n'est pas seulement un combat de l'écriture, c'est un combat de tout et de tous contre l'absence et les ténèbres, de faire entendre la voix off de la francophonie, à la fois dans l'examen des réalités sociopolitiques, dans l'enseignement et dans la littérature. Je vous remercie de votre attention bien héroïque à cette heure.
Merci Marc, merci beaucoup.